Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes le 23 février 2019 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux, réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes 2019. Je suis Fendoel et je suis accompagné de Paul Gara. Bonjour Paul Gara.
Bonjour Fendoel.
Tu vas bien ?
Mais écoute, plutôt bien.
Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir un superbe invité, Théo Rivière. Bonjour Théo.
Salut.
Tu es auteur de jeux, tu fais également partie de la team Kaedama. On a fait un podcast il y a encore pas très longtemps à ce sujet. Il y a également un excellent podcast dans la radio des jeux. Et nous allons t'interviewer sur les différentes sorties que tu as sur le salon de Cannes. Mais en attendant, nous posons des questions à nos invités. Tous les invités passent à la casserole. C'est notre fil rouge avec des petites questions que Paul Gara va te poser. Les voici.
Pour ce fil rouge spécial Cannes, nous allons te demander si Cannes, pour toi, c'est plutôt jeu ou cinéma ?
Ah, c'est jeu à mort pour le coup.
Plutôt bière ou champagne ?
Ah, c'est dur ça, plutôt rhum.
On valide.
Plutôt camping ou Martinez ?
Camping.
Plutôt off ou plutôt dodo ?
Plutôt dodo.
Plutôt salon ou plutôt festival ?
Salon.
Plutôt pro ou plutôt perso ?
Pro.
Donc Théo, comme le disait Fendoel, on t'a reçu il y a un petit peu moins d'un an. C'était en mars 2018 pour une interview avec Ludovic Maublanc où vous nous parliez beaucoup de ce qu'était être un auteur de jeu, de son statut, de sa reconnaissance, de ses liens avec les éditeurs et aussi de l'aventure Kaedama qui était encore assez récente. Enfin, vous êtes vraiment démarré donc avec Antoine Boza et Corentin Lebras. Donc on va pas revenir sur Kaedama à proprement parler de la structure, mais avec un an de plus, hein, ton bilan, ça correspond à ce à quoi tu t'attendais en t'embarquant dans cette aventure ?
Ouais, clairement. À la fois, nous on avait pas une inquiétude, mais on savait pas exactement comment créer quelque chose qui était assez nouveau, si on allait avoir du client, si ça allait marcher, si nos services allaient plaire à des gens. Et un an plus tard, on a plutôt du boulot, ce boulot se passe plutôt bien et on est vraiment content de ce qu'on arrive à faire. Il y avait aussi une inquiétude financière légère de se dire on n'a pas de business plan parce qu'on ne fait pas ce genre de truc, on ne sait pas exactement vers où on va aller. Et aujourd'hui, Corentin et moi, on est à temps plein sur Kaedama. Corentin a quitté son boulot juste après SN, donc en novembre de l'année dernière. Et on n'est pas salarié de Kaedama, mais la structure peut nous dégager suffisamment de sous pour qu'on puisse compléter avec nos droits d'auteur et vivre un niveau de vie réduit, mais vivre quand même normalement de ce boulot-là. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super. Et l'autre truc, c'est qu'on savait pas exactement non plus comment ça allait marcher de bosser tous les quatre. On se connaissait bien, mais c'est toujours un peu délicat de se dire maintenant on va bosser pratiquement au quotidien ensemble.
Et à temps plein, c'est pas toujours le même investissement émotionnel, personnel.
C'est pas le même feeling. Et pour l'instant, je touche de la table de proxy jeu, mais tout va bien. On s'entend toujours bien. La vie est toujours belle et on arrive à bien s'entendre aussi sur nos projets, quoi.
Donc un projet qui a été notamment développé et qui est présenté à Cannes, c'est Draftosaurus chez Ankama. Donc
oui.
Un jeu qui est un jeu de draft de dinosaures. Bon, on en a parlé au débrief on est nombreux à y avoir joué dans l'équipe et on a plutôt apprécié.
Débrief du jour zéro.
Voilà, débrief du jour zéro. Donc
c'est vrai, j'ai écouté.
Ouais, ça c'est très bien. Après, il faut typer.
C'est l'étape supplémentaire.
L'étape supplémentaire. Donc ça, vous en avez bien parlé aussi de ce jeu que vous avez développé pour Ankama, mais tu as aussi une autre sortie pour ce festival chez Hurricane.
Oui, c'est Nagaraja que j'ai développé avec Bruno Catala et qui est illustré par Vincent Lutré, qui est une belle avant-première. Là, ils ont quelques boîtes sur le fige, mais ça sort a priori dans un mois et demi, donc un peu plus tard.
Donc j'ai bien fait de l'acheter alors.
Oui, à mort, ouais. Enfin, si t'as envie d'y jouer pendant un mois avant que ça sorte.
Donc tu peux nous présenter un petit peu le jeu, s'il te plaît ?
Ouais, tout à fait. C'est un jeu pour deux joueurs strictement, qui prend à peu près une trentaine de minutes, et on est sur un jeu légèrement gamer, on va dire. C'est pour du 9 ans et plus sur la boîte. En pratique, avec des enfants qui ont l'habitude de jouer, on peut descendre comme d'habitude, mais c'est quand même un jeu avec un petit peu de règles. Le pitch thématique, c'est qu'on est des aventuriers un peu dans une ambiance pulp à la Indiana Jones, ce genre d'ambiance là, et on vient d'arriver devant des temples jumeaux dans une Inde un peu fantasque, et ces temples contiennent de magnifiques trésors qu'il va falloir réussir à les récupérer. Pour ça, on a deux mécaniques centrales. La première, c'est que chaque joueur explore son temple dans lequel il va agencer des salles, qui sont des salles en T, en X, avec vraiment des chemins. Et chaque joueur va réussir à former son propre petit chemin dans son temple pour relier l'entrée aux différents trésors pour aller collecter des points de victoire. Pour récupérer ses tuiles et constituer son chemin, il y a une méca qui utilise des dés et des cartes à la fois. Il y a tout le matériel du monde dans ce jeu. Avec une notion de dilemme et d'arbitrage qu'on aimait bien avec Bruno et qui était un peu notre point de départ mécanique quand on a réfléchi au jeu, puisque chaque carte nous permet soit de miser des dés, donc de récupérer des dés parmi une réserve pour en lancer plus ou moins, soit d'activer des pouvoirs. Et chaque carte a cette double entrée, donc on est toujours sur un dilemme et sur un petit arbitrage de bah, cette carte elle me donne des dés plutôt canon, donc j'ai envie de la jouer pour ces dés, ah, mais en même temps j'aime bien le pouvoir aussi, donc est-ce que je la sacrifie d'un côté ou d'un autre du spectre. C'était vraiment un des arbitrages qu'on avait envie d'avoir régulièrement. Derrière, on constitue, donc on récupère ses tuiles en pariant des cartes et en pariant des dés. On récupère ses tuiles, on fait son petit chemin jusqu'à temps de cumuler suffisamment de points de victoire. Et il y a un petit twist supplémentaire, c'est que dans le temple, il y a 3 trésors qui sont maudits. C'est des trésors rouges qui valent 6 points de victoire, ce qui est beaucoup. Il faut atteindre 25 dans le jeu et les autres trésors valent plutôt 3, 4, ponctuellement 5, mais c'est assez rare. Ils valent 6 points, ce qui est beaucoup. Mais si on révèle les 3, 6, 6, 6, que je vole la blague de Bruno Catala qu'il aime beaucoup, on perd tout de suite la partie. Donc il y a 2 grandes lignes de stratégie, une stratégie un peu je vais cumuler des points, et une stratégie où je vais forcer mon adversaire à révéler ses mauvais trésors, le faire tomber dans des pièges, et réussir à le battre comme ça. C'est assez interactif, piquant, comme on est sur du 2 joueurs, il y a vraiment d'interaction directe, on peut aller emmerder l'autre, on va jouer des trucs qui vont un peu le pourrir, on est vraiment dans un truc qu'on avait envie d'interactif, pas trop lisse à ce niveau-là.
Ça a toujours été, dès le début de l'idée du jeu, un jeu à 2 joueurs ou c'est quelque chose sur lequel vous avez évolué progressivement ?
Non, c'est un des rares trucs qui était là depuis le début et qui n'a pas bougé, pour le coup. Dès le départ, parce que moi j'ai une vraie appétence pour le jeu à 2, je joue beaucoup avec ma copine et c'est des jeux que j'apprécie beaucoup, notamment sur des jeux de 7 acabits. Il y a beaucoup de petits jeux à 2 que j'aime bien, Okeh, Hotun Totun, Anamai Koji, mais il y a peu de jeux un peu gamer que j'aime bien à 2. Il y a Duel qui est excellent et auquel je reviens régulièrement, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça qui me touche et auquel j'ai envie de rejouer. Et comme Bruno est quand même plutôt sexy en jeu à deux, il a l'habitude de le faire et fait ça plutôt bien, c'était aussi un bon partenaire pour bosser de cette manière-là.
Est-ce qu'il y a un sous-entendu dans Bruno est sexy en jeu à deux ou pas du tout ?
Comme tu veux.
Et le thème, c'était un thème originellement sur cette Inde mystérieuse
Non, au départ, on était sur... En fait, au tout départ, le matériel était vraiment différent puisqu'on utilisait des dés à multiples faces, etc. C'était vraiment différent dans l'expérience. Et à ce moment-là, on n'avait pratiquement pas de thème. C'était un jeu plus d'affrontement. Donc, on avait récupéré les très belles illustrations de Biboun, Christophe Fossard, pour faire le prototype. Et donc, c'était des dieux grecs et romains. Un peu bateau, c'était pas forcément le thème qui nous plaisait le plus. Petit à petit, on a avancé. Et en fait, le moment où on s'est dit, bah tiens, ça va être des dés à 4 faces et on va faire des bâtonnets, l'Inde s'est imposée un peu d'elle-même. On était déjà sur une notion d'exploration et d'explorateur parce que c'est parmi les premiers dés qu'on a découverts dans des tombes, c'était en Inde que les dés avaient cette forme-là.
D'accord.
Donc on avait envie de faire un petit clin d'œil et puis c'était le thème explorateur est assez exploité. On le voit assez régulièrement, mais là d'avoir un traitement graphique un peu différent et d'avoir un truc plutôt en Inde, ça est quelque chose qu'on avait l'impression qu'on avait un peu moins vu aussi.
C'est vrai que la boîte est très chouette. Et par rapport au nom, c'est... toi qui l'as choisi, c'est l'éditeur.
Je sais plus à quel moment on a tranché. Nous, ça s'est longtemps appelé Kalima, qui est le cri du sorcier dans Indiana Jones.
Ouais, tout à fait.
On n'a pas voulu le garder, on s'est pas renseigné spécialement, mais il y avait toujours un risque au niveau des droits, qu'on se fasse emmerder par ça quoi être la Warner, et on s'est dit bah ça vaut pas.
Spielberg vienne vous voir en vous disant. Ouais.
Ah, j'ai beaucoup aimé le jeu. En tout cas, ça valait pas la prise de risque.
Ouais.
Et le proto s'est appelé Kalima pendant très longtemps quand on bossait dessus avec Bruno. Et je pense que c'est Stéphanie Berry qui bosse chez Hurricane. Qui à un moment a proposé ça parce que c'est la contraction de Naga qui est le serpent, qui est aussi le symbole qu'on peut retrouver sur les dés qui servent à activer des pouvoirs.
D'accord.
Et Raja qui est le roi, pardon. Donc ça faisait roi serpent, ce qui allait bien dans l'univers. Ça sonne plutôt indien aussi, parce que Maharaja, Nagaraja. Et on trouvait ça assez facile à dire, ce qui est aussi un débat quand on fait des jeux. Bon, après 2 jours de dédicace et des gens qui arrivent et qui me disent ah, j'ai beaucoup aimé Raga, Nana. C'était peut-être qu'il y avait encore un petit truc à trouver, mais globalement on est content.
Et l'illustrateur, c'est qui a eu l'idée de faire appel à Vincent Dutray ?
Alors là, 100% Bruno Catala, où dès le départ, avant même qu'on le propose à un éditeur, lui s'est dit, j'aime bien Vincent, il s'entend très bien. Moi, je connaissais un peu Vincent Dutray aussi, et bah, ça m'allait très bien aussi. Et il avait envie de bosser avec lui sur ce projet-là. Donc il lui a fait jouer le prototype assez tôt pour voir si Vincent aimait bien le jeu, parce que Vincent sélectionne vraiment les jeux qu'il illustre en fonction de son goût pour la mécanique. Donc il avait apprécié le jeu, il était plutôt chaud pour le faire. Et ça venait aussi d'un moment où lui, il venait de sortir. C'est le moment où BGG a fait les artistes series, là, les grands posters
qui
prenaient des illustrations de jeux. Et lui, il avait fait Blood Rage, en travaillant sur une technique un peu différente, puisque c'est de la colorisation numérique, là où Vincent est normalement 100% traditionnel. Et donc, Bruno lui a dit j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait sur ça. Est-ce que ça te dirait de faire un truc différent et d'avancer sur de cette manière-là sur Nagaraja ? Vincent était bien chaud. Hurricane n'avait pas trop de raisons de refuser parce que bah c'est pas un auteur qui arrive en disant ah j'ai mon cousin il fait des très belles images ça vous dit vous le signez avec. Là c'était quand même quelqu'un de pro et qui savait bien faire et donc l'aventure a commencé comme ça.
Excellent. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Nagaraja?
Non, c'est pas mal, jouez-y.
Enfin, moi j'avais joué à Bruxelles et j'ai beaucoup aimé le jeu. Il y a un matériel qui est très chouette, il y a beaucoup d'affrontements. C'est assez, on se pourrit bien, ouais. Assez chouette, surtout à deux. En couple, c'est très bien pour, quand on a des comptes à régler.
Et c'est vrai que tu parlais du matériel, et là ça fait pas prétention en le disant, mais je suis vraiment ultra ravi de l'édition. Hurricane a fait un boulot de dingue, entre autres sur le thermoformage qui est creusé pour faire apparaître une image. Le matériel est vraiment qualitatif, c'est bien épais, les cartes sont bien faites. Non, ils ont pris le temps. C'est un jeu qui a eu un processus éditorial un peu plus long que la moyenne, je pense. Et longtemps, on a fait tourner des prototypes qui ont évolué, entre autres, au niveau de l'ergonomie. Mais à la fin, l'attente valait la chandelle, puisque vraiment, en termes éditorial, je suis 100% satisfait, quoi.
Après avoir écouté l'interview qui a été donnée à la radio des jeux par la Team Kaedama sur tes projets plus personnels, j'ai cru comprendre que tu t'orientais beaucoup sur des jeux soit d'enquête, enfin ou à campagne, à énigme. Enfin, c'était quelque chose que tu explorais.
Ouais, j'ai entre autres un jeu qui s'appelle, pour l'instant le nom va évoluer puisque là j'ai un rendez-vous cet après-midi ou demain avec l'éditrice, mais Sherlock Witch, qui est un jeu scénarisé d'enquête pour enfants. Et après, je réfléchis parce que j'ai une affreuse mémoire, mais pas tant que ça en fait. Alors, j'ai vraiment une volonté importante de raconter des histoires au travers des jeux, que je tiens d'Antoine, qui est un grand fervent défenseur de la narration dans les jeux. Et c'est vrai qu'explorer des jeux qui racontent des histoires plus directement avec des cartes, des histoires, du scénario, de la permanence, moi c'est des choses qui m'intéressent et qui me font réfléchir en tout cas en ce moment énormément.
Sherlock Witch dont tu parles là, ça s'orienterait comment
Alors à l'heure actuelle, mais là j'ai vraiment une réunion remettons le projet un peu à plat avec Loki demain. On a fait beaucoup d'échanges avec Mathilde qui vient d'arriver chez Loki, qui complète Aurélie qui était mon éditrice jusqu'à présent, et Mathilde prend un peu le relais sur le projet. Donc forcément, en ayant une nouvelle personne, ça change pas mal de choses. Mais dans l'idée, on a vraiment l'envie de créer un univers qui soit sympa et qui se tienne. Et deux, que les histoires qu'on vive soient suffisamment bien écrites pour que ça soit qu'on vive quelque chose pour de vrai, quoi. Ce qui est un des challenges. On en a pas encore parlé, mais peut-être que je m'occuperai pas d'ailleurs de rédiger tous les textes, puisque je suis pas écrivain de littérature, encore moins de littérature jeunesse. Donc c'est pas un truc que je maîtrise parfaitement bien, même si j'ai plaisir à le faire. Mais en tout cas, on a vraiment envie que chaque partie soit une vraie histoire et qu'il y ait cette volonté de rejouer pour se dire ah, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de découvrir l'univers.
Tu viserais quel public, quel âge à peu près? Tu y as réfléchi à ça ou...
On y a réfléchi.
Parce que c'est une grosse contrainte, j'imagine. Ouais. Dès que tu fais de la jeune... Enfin, c'est pas du tout pareil de s'adresser à un enfant de 5 ans, à 8 ans, c'est...
Ce qui est problématique, c'est que dans tous les cas, on va être dans un jeu avec du texte. Donc ça sera forcément un jeu qui sera sur parents-enfants en accompagnement. Là, j'ai le sentiment qu'à 5-6 ans, ça devrait être accessible avec cette contrainte de la lecture qui fait que l'enfant peut pas, en autonomie, se poser et lire toutes les cartes, ce qui serait un petit peu compliqué. Donc on sera presque sur un jeu famille dans un sens plus direct du terme, à jouer au sein d'une famille, ou du moins en mélangeant des adultes et des enfants.
On avait deux, trois petites questions des auditeurs. Tout d'abord la première, est-ce vrai que Drafting est ton jeu préféré?
Ah ouais, clairement, j'aime beaucoup beaucoup de jeux, c'est vraiment brillant.
Alors en fait, l'auditeur c'est moi, parce que en regardant les jeux sur Philibert, j'ai vu marquer comme argument de vente quand même le jeu préféré Drafting, le jeu préféré de Théo Rivière, et je me suis dit bon, il faut que je lui demande, c'est vraiment ça. Donc
j'ai commenté d'ailleurs cette fiche Philibert en mettant mon jeu préféré 5 étoiles, mais ça c'est mon avis est pas passé pour l'instant, donc j'attends encore un peu de voir.
J'ai trouvé ça assez marrant que ce soit formulé comme ça.
On a quelqu'un d'autre qui nous demande ce qu'il appelle morning routine, en fait ta journée type de Théo Rivière. Wow. Gestion du temps entre Kaedama, les projets perso, et finalement quelle est ta journée type?
Je pense que je vais faire ma morning routine de la journée qui se passe bien et qui est un peu classe, comme ça les gens ils vont penser que je suis quelqu'un de sain dans ma vie, etc.
Sûr. Tu signes plein de contrats, tout ça.
Tu fais 2 heures de sport, bien sûr.
Normalement, je fais une demi-heure de sport tous les jours, pour le coup. Alors, j'ai un peu, après SN, où ma vie a été un peu dissolue parce que j'ai bu et mangé salement, j'ai eu un peu du mal à m'y remettre, mais normalement, là, j'ai recommencé un peu.
Donc, tu commences par ça? Non,
je me lève, je prends un petit déj. Généralement, ma compagne part pour le boulot, donc on discute un peu le matin. On essaye souvent de faire un jeu au petit déj aussi, c'est un truc que j'aime bien pour me lancer un peu. Donc, plutôt du petit jeu à ce moment-là, hein, du Jeppour ou du Shoten Totten. Je médite depuis 2 ans presque, qui est un truc que j'aime beaucoup et que j'essaie de propager un peu autour de moi. Pas de manière spirituelle du tout, je fais de la méditation de pleine conscience, qui est globalement se caler 10 minutes les yeux fermés, essayer de réfléchir à sa respiration, de se caler et de vraiment se détendre et de passer un moment assez agréable, qui est un truc qui fait super peur mais que je conseille à plutôt la terre entière, qui marche vraiment bien en tout cas pour moi. Je suis beaucoup moins stressé et beaucoup plus serein depuis que je fais ça. Et qui vient du fait qu'à un moment j'ai regardé plein de vidéos de morning routine de gens qui réussissent dans la vie et que vraiment la méditation et le sport c'est les deux trucs qui revenaient à 100% des cas, donc je me suis dit que j'allais essayer et je le regrette vraiment pas. Et après j'ai tendance à me caler sur mon bureau, répondre, j'essaye de plus en plus de me mettre des créneaux horaires spécifiques de travail, de me dire tiens là je vais bosser pendant 2 heures sur tel projet, puis pendant 1 heure sur tel projet. Et ensuite, bah, je vais me caler sur les réponses aux mails ou ce genre de choses. Et de moins en moins, j'essaye d'être bousculé par les inputs qu'on peut avoir au cours de la journée et qui vont me briser dans un truc créatif. Donc j'ai tendance à fermer Facebook, Twitter et mes mails pendant 1 heure. Si je me dis pendant 1 heure, je vais bosser sur tel projet, de plus en plus. Après, au niveau de l'équilibre entre Kaedama et mes projets perso, c'est un peu le bazar. Moi-même, je le maîtrise pas très bien. Aujourd'hui, je pense que je suis à 80% pour Kaedama et 20% pour mes projets. Mais encore une fois, je sors un peu le chiffre au pif, quoi. J'ai pas fait de vrai calcul. Mais le vrai truc qui arrive, c'est que comme sur Kaedama, on est sur des projets qui sont souvent timés avec une deadline, sur lesquels on a souvent déjà eu une avance, on a déjà été payé un peu, ils sont toujours prioritaires par rapport à un projet sur lequel moi je travaille et sur lequel on n'a pas eu de rémunération.
On sait aussi que tu es un très très grand joueur, enfin tu joues beaucoup, très souvent. Donc on peut pas résister à l'envie de débriefer un peu avec toi du palmarès de l'As d'Or. Parce qu'on sait qu'en plus, tu avais vraiment un chouchou qui était le vainqueur final, The Mind.
Clairement.
Donc, est-ce que tu portes. Nous, on a vraiment le sentiment que beaucoup d'auteurs de jeux ont été très fans de The Mind, peut-être plus que simplement des joueurs. Tu peux nous expliquer en quoi, quand toi tu fais des jeux, en quoi The Mind est vraiment un jeu très innovant?
En fait, je sais pas. Parce que The Mind, c'est vraiment, vraiment bizarre. On en parle souvent, mais. Je pense que si j'avais eu l'idée, et j'aurais bien aimé l'avoir, de The Mind, et que je l'aurais noté dans mon carnet de proto, je suis pas certain que j'aurais fait le proto pour y jouer. Tellement c'était chelou. Je me souviens très bien, c'est à Cannes l'an dernier, en grande partie parce que Eric Martin, qui avait fait monter un peu la sauce avant que The Mind prenne vraiment, avait tweeté pas mal sur le fait que The Mind c'était cool. J'ai acheté une boîte sur le stand d'Oya, un peu à l'arrache, en me disant on va voir, c'est moche, mais je verrai ce que ça donne, quoi. On s'était mal compris d'ailleurs avec Boza parce qu'on devait se répartir les achats et on l'a acheté tous les deux. Et donc on s'est retrouvé avec 2 boîtes de The Mind. J'ai lu les règles dans le train en retour et j'étais genre oh là là, ça a l'air chiant en fait, ça a pas marché du tout, quoi. Et j'ai fait une partie et c'était magique en fait. Ce qui fait que The Mind, c'est, j'arrive pas à être pragmatique quant à ce jeu parce qu'il y a un vrai truc que j'explique pas. Je suis assez terre à terre, je crois pas au mysticisme, je suis pas religieux du tout, j'ai pas l'impression que l'intuition ou ce genre de choses ça existe pour de vrai. Et pourtant quand je joue à The Mind, il y a un truc que j'arrive pas à parfaitement conceptualiser qui arrive autour de la table.
Est-ce que tu penses que justement c'est un jeu qui devait venir d'un nouvel auteur, d'un auteur nouveau dans le milieu?
J'ai découvert du coup Wolfgang Warsch un peu après et j'avais l'impression, moi j'aurais été vraiment mis à main à couper, que c'était un mec qui avait fait un jeu une fois, qu'en ferait plus jamais et qui avait fait son random truc de la bonne idée et puis que ça s'arrêterait là, quoi. Et en fait pas du tout, parce que c'était pas son premier jeu, il avait fait un truc qui était passé inaperçu, mais a priori il avait déjà eu la volonté de créer des choses, et le fait qu'il en ait sorti 5 ou 6 cette année montre que il avait déjà bossé sur d'autres choses. Mais c'était vraiment étonnant pour le coup, et j'aimerais bien, je l'ai rencontré à Essen, il était en plus très sympa, ce qui m'a énervé parce que le mec il est talentueux et sympathique, donc on peut même pas ne pas l'aimer, quoi.
Merde.
Mais j'aurais bien aimé parler avec lui longuement de son processus créatif et de comment ça s'était passé, parce que c'est surprenant, ouais, comme jeu.
Ça veut dire aussi qu'en fait, il y a vraiment encore beaucoup de marge d'invention. Enfin, parfois, on a l'impression qu'on a fait le tour de certaines mécaniques et du coup, ça laisse entendre qu'il y a encore plein de choses à créer, parce qu'on a toujours cette impression qu'on arrive à beaucoup, beaucoup, une grosse quantité, mais.
À fond, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on peut se renouveler de manière assez incroyable et qu'il y a encore beaucoup de choses à inventer, beaucoup de choses à voir. Et ces 3-4 dernières années ont quand même encore été extrêmement créative. On a vu des choses qui sont passées qui n'existaient pas, que ça soit les Legacy, dans la même veine, le fait que des jeux One Shot à la Unlock, Time Stories, etc. sont arrivés, étaient aussi extrêmement différents. Sur le matériel, il y a aussi plein de choses à exploiter, plein de choses qui arrivent. Je suis pas forcément un aficionados, mais les jeux hybrides amènent quelque chose aussi qui est intéressant. En tout cas, j'ai vraiment le sentiment que même sans aller dans le bizarre, il y a encore plein de choses à créer.
Est-ce que tu as aussi le sentiment que même ces nouveautés, ces innovations, elles descendent, moi je trouve, dans le jeu enfant. Enfin, il y a vraiment, on sent que avant le jeu enfant qui était quand même assez classique, on commence à se permettre des choses un peu plus originales et un petit peu plus novatrices côté enfant.
En fait, je crois qu'il s'est passé un truc, c'est que maintenant il y a des éditeurs de jeux enfants qui sont des éditeurs que les auteurs connaissent. C'est-à-dire qu'avant, moi, j'aurais jamais signé un jeu chez ABBA ou chez Djeco parce que je signe des jeux avec des gens que j'aime bien et que je connais, et je connais personne de chez ABBA et je connaissais personne de chez Djeco. Et passé ces deux-là, il y avait personne vraiment qui faisait du jeu enfant-enfant. Dans mon contact direct, il y avait Purple Brain, mais il fait du jeu plutôt familial, donc ça correspondait pas vraiment. Et d'un coup est arrivé Loki, le Scorpion Masqué s'est vachement développé, donc il était plus motivé. Djeco a commencé à recruter des gens, venir sur les salons, rencontrer les auteurs. Et donc j'ai l'impression que le marché s'est un petit peu ouvert. Il y a T-Kids qui s'est créé. Il y a pas mal de marques qui sont apparues et qui ont eu la volonté d'aller dans ces domaines-là. Et je pense qu'il y a pas mal d'auteurs qui se sont dit « Ouais, cool, je vais essayer, ça a l'air bien ». Et c'est un domaine qui avait besoin, je pense, d'être un peu plus remué. Parce que les jeux où on lance un dé, on fait ce qui est écrit dessus à la verger, c'était très bien pour le verger, mais maintenant on n'a peut-être pas besoin d'en avoir 50 qui sortent par an. Tout comme les déclinaisons du memory, y en a un milliard, on n'a peut-être pas besoin d'en avoir un milliard par an non plus, quoi. Et donc les auteurs et les éditeurs ont amené un truc un peu différent et une volonté, je pense, pas forcément conscientisée, mais un truc de on va amener des choses plus nouvelles, et ça c'est vraiment un truc qui me plaît, moi, en tout cas.
Pour finir, moi, je me demandais, c'est être quand on est auteur. Enfin, bien sûr, il faut, je pense, beaucoup, j'imagine beaucoup jouer pour s'inspirer des mécaniques, avoir des idées. Et est-ce que tu dirais qu'il y a, enfin, il faut être de façon générale s'intéresser à tous les domaines culturels. Enfin, c'est vraiment ça qui crée la culture ludique. C'est un assemblage de connaissances de culture générale un peu classique.
Moi, je le pense. En tout cas, j'ai la prétention d'avoir l'impression d'être curieux et de m'intéresser à un maximum de trucs parce que effectivement les premiers pas créatifs, ils viennent de absolument n'importe quoi. C'est, et on va arrêter de le citer après, hein, mais Bozal le disait ça assez bien, et effectivement, c'est parce que t'es en train de voyager dans un pays et en train de bouffer un truc bizarre que t'as une idée, ou parce que tu regardes un film et que ça t'a un peu inspiré. Des fois parce que t'as joué à un jeu et que ça t'a inspiré aussi, mais c'est moins direct, en tout cas pour moi. Mais c'est vrai que n'importe quel truc peut être mon point de départ créatif. Et en étant curieux, j'ai plus de stimulation et je vois plus de choses, j'essaie de regarder beaucoup de films, je lis beaucoup de BD, et effectivement ça va m'amener pas mal de choses de « Ah putain, ça c'était chouette, il y a peut-être moyen d'en faire un jeu ». Et donc oui, moi je suis, pour répondre plus directement, oui, je suis vraiment persuadé que c'est essentiel d'être pas forcément cultivé mais au moins curieux et d'aller s'intéresser à plein de choses pour être un bon créatif, quel que soit le domaine en fait.
Merci beaucoup Théo.
On te remercie énormément d'être venu.
Non, merci à vous pour l'invite.
Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur la page Tipeee. La page Tipeee, c'est ce qui nous a permis de venir à Cannes, donc c'est grâce à vous que nous sommes là. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien.